Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Margot Le Ridon, mais aussi Hélène Lefrançois, Bertille Bourdon, Lucas Lazo, réalisée par Émilie Valla et mise en onde ce matin par Sylvain Latu. Deuxième temps de notre série consacrée au laboratoire politique de l'Europe après nous être intéressés hier au populisme à l'italienne, avant d'aborder demain l'improbable alliance entre écologistes et conservateurs du côté de l'Autriche, et puis jeudi le néolibéralisme britannique. Tournons-nous aujourd'hui vers la Hongrie et sa démocratie qu'on dit souvent illibérale. Hongrie, réinventer la démocratie chrétienne, c'est notre sujet ce matin dans Culture Monde.
Bruxelles veut diluer, changer la population de l'Europe, en sacrifiant notre culture, notre mode de vie et tout ce qui nous distingue en tant qu'Européens des autres peuples du monde.
C'est la fin de la démocratie libérale. Elle est incapable de défendre la dignité du peuple, incapable de nous garantir la liberté, incapable de nous garantir la sécurité. Elle ne peut plus promouvoir notre culture chrétienne.
La crise migratoire va continuer tant qu'on ne s'occupera pas de ses racines profondes. Cela va durer jusqu'à ce que tout le monde reconnaisse que les migrants sont le cheval de Troie du terrorisme.
Là, quelques extraits de discours de Viktor Orban. En une décennie, le premier ministre hongrois Viktor Orban, arrivé au pouvoir en 2010, est devenu la figure de proue de l'extrême droite européenne qui salue la fermeté de son souverainisme, de son opposition à l'immigration et de sa défense des racines chrétiennes du continent. Une situation paradoxale pour cet ancien étudiant en droit qui, du temps de sa jeunesse, opposait un discours résolument libéral au pouvoir soviétique. S'il a rapidement remisé les accents progressistes de ses débuts, Viktor Orban se voit et se revendique toujours comme appartenant à la droite mainstream, interlocuteur occasionnel de Matteo Salvini, mais refusant systématiquement tout rapprochement avec le parti d'extrême droite hongroise Jobbik. Il ne cherche pas tant à fédérer les plus radicaux qu'à radicaliser les plus fédérateurs, cultivant ainsi les penchants conservateurs de la démocratie chrétienne traditionnelle. Alors comment Viktor Orban a-t-il modifié le paysage politique hongrois au cours de ses 10 années au pouvoir? Comment son parti Le Fidesz a-t-il pesé sur l'orientation idéologique de la droite européenne? Quel rapport entretient-il avec l'extrême droite qu'il adule mais à laquelle il refuse d'être assimilé? Et la récente défaite du Fidesz aux élections municipales de Budapest augure-t-elle un déclin ou du moins de l'érection d'un nouveau front anti-Orban qui bouleverserait le paysage politique national? Pour évoquer toutes ces questions, nous avons invité ce matin Paul Gradvol. Bonjour.
Bonjour.
Merci infiniment d'être avec nous ce matin, Paul Gradvol. Vous êtes historien, maître de conférence à l'Université de Lorraine et un spécialiste de la Hongrie. On a eu l'occasion régulièrement d'en parler ensemble à ce micro. Avec nous également, Amélie Poinceau, bonjour.
Bonjour.
Merci infiniment également d'être avec nous. Vous êtes journaliste à Mediapart. Vous avez eu l'occasion, on a eu l'occasion également d'échanger autour d'Orban et vous aviez signé Dans la tête de Viktor Orban qui était paru l'année dernière chez Actes Sud. Oui. Alors on va commencer avec la question qui intéresse évidemment absolument tout le monde aujourd'hui. C'est la question du coronavirus. C'est vraiment le sujet incontournable. Et c'est le sujet incontournable pour l'ensemble des extrêmes droites européennes. Avec cette capacité, on le voit à peu près dans toutes les extrêmes droites européennes, à corréler la question du coronavirus et la question des frontières et de l'immigration. Et ça n'a pas manqué, parce que du côté de Orban aussi, on a dit qu'on allait fermer les deux camps de transit qui sont aux frontières avec la Croatie et la Serbie. Le proche conseiller d'Orban, Gyorgy Bakondi, a expliqué même qu'il voyait, lui, un lien entre le coronavirus et les migrants illégaux. Donc, on voit bien que cette annonce classe tout de suite Orban dans, disons, la galaxie des extrêmes droites européennes, qui toutes donc lient cette question du coronavirus à la question de l'immigration. Or, précisément, Orban, lui, ne se classe pas dans cette galaxie des extrêmes droites européennes. Voilà le premier paradoxe sur lequel peut-être on pourrait se pencher. Allez, on va commencer avec vous, Paul Gradvol.
C'est un paradoxe qu'on peut expliquer de multiples façons. La première, c'est que Orban se projette comme dirigeant politique européen. Donc, comme il part souvent de son intérêt extrêmement personnel, la façon dont il voit les choses est simple. Son objectif est de pousser la droite allemande dans ses propres bras, parce que pour lui, c'est le moyen d'accéder à une vraie influence en Europe. Donc, Orban est un faux conservateur, c'est un faux extrémiste. Je pense qu'il est prêt à peu près tout. Il n'y a pas de principe à chercher, il y a une logique de calcul politique. Et son calcul politique est simple, c'est qu'il mise sur la partie de la droite allemande qui est pro-russe, parce qu'il y a aussi cette dimension-là, et il est pour le rétablissement d'une droite fière de l'autoritarisme.
On reviendra évidemment sur la question européenne. On va d'abord se pencher sur le paysage national hongrois pour justement comprendre bien les choses, comment s'articulent les choses. Amélie Poinceau, Paul Gradvol l'a dit, faux conservateur. C'est précisément l'inverse de ce que pense Orban. Pour Orban, lui, il se dit précisément, il dit « je suis conservateur, je suis un vrai conservateur ».
Oui, c'est ce qu'il dit aujourd'hui. Il a dit beaucoup de choses. En réalité, depuis 30 ans, c'est quelqu'un qui a effectué un certain nombre de revirements politiques. Et c'est quelqu'un qui est né comme personnage politique à la fin des années 80 et au début des années 90, comme plutôt un libéral à l'époque, un anti-autoritariste, ce qui est effectivement paradoxal avec ce qu'il est devenu aujourd'hui. Il y a eu un certain nombre de revirements parce que dans les années 90, lorsque la Hongrie s'ouvre à la démocratie et où s'organisent les premières élections libres et l'ouverture donc de ce bloc de l'Est, à ce moment-là, il se trouve que Orban observe un vide politique du côté du camp conservateur, du côté de la droite hongroise. Et c'est à ce moment-là, en fait, que par calcul, Orban droitise une dans un premier temps son discours. Et après, il y aura plusieurs étapes. La dernière, pour aller très très vite, on pourra revenir après dans les détails, mais en tout cas, le dernier coup de barre à droite, c'est 2015, avec ce qu'on a appelé donc la crise des réfugiés, en tout cas l'arrivée des exilés, notamment de la guerre en Syrie, actualité qui revient aujourd'hui sur le devant de la scène, et où on voit combien Orban réactive ce discours, qui est non seulement conservateur, mais qui est aussi à la limite de la xénophobie, puisque c'est un discours qui se teinte d'un refus de l'accueil de tous les migrants, qu'ils soient réfugiés économiques, de guerre ou autres. Donc c'est un revirement, disons, qui date de 2015. Mais avant cela, Orban n'avait jamais tenu de ce type de discours.
Et là aussi, on a un paradoxe. Il va y en avoir pas mal avec Orban. Hein. Mm-hmm. Mais sur celui de la question de l'immigration, c'est qu'en réalité, en Hongrie, il n'y a pas tellement d'immigration. Or, précisément, c'est vraiment un classique dans la rhétorique orbanienne. Comment comprendre que ça fonctionne dans l'opinion hongroise, alors même qu'il n'y a pas tant que ça d'immigration, il n'y en a même quasiment pas, le discours d'Orban parle quand même à ses électeurs sur la question de l'immigration.
Il a un monopole quasiment complet de la presse et des médias, donc il s'agit d'un fonctionnement par campagne. Et à la suite des campagnes de 2015, on a vu la xénophobie monter dans l'opinion publique. C'est-à-dire que c'est un modèle de la propagande goebbelsienne par bombardement. Tous les jours, moi j'ai des collègues universitaires qui ont refusé de venir à des colloques en France parce qu'ils étaient persuadés qu'à l'aéroport de Roissy, des barbus allaient les égorger. Parce qu'ils étaient chrétiens et blancs. Mais sincèrement. Donc, quand on arrive à ce degré de capacité d'efficacité du discours de haine et de xénophobie, c'est fantastique. Mais pour continuer les paradoxes, je rappelle qu'il y a un mois, si nous nous étions retrouvés, nous n'aurions pas parlé des campagnes xénophobes, on aurait parlé de la campagne anti-tsigane. Parce que, comme justement la xénophobie ne marchait plus bien et que Erdogan n'avait pas décidé de changer de politique, là, le nouvel ennemi était le tsigane. Donc, la vie politique hongroise est scandée par des campagnes de haine, Bruxelles, les tziganes, les immigrés et autres. Et c'est un rouleau compresseur perpétuel. Ce qui serait fantastique, c'est de pouvoir expliquer pourquoi ça ne marche pas si bien que ça, comme on l'a vu lors des élections municipales, où il y a quand même des poches de résistance. C'est ça qui est étonnant.
On reviendra évidemment sur, oui, vous faites référence à Budapest et on en parlera. Amélie Poinceau, sur cette question effectivement des Roms et sur la manière dont Orban peut utiliser aussi tout cela, parce qu'effectivement l'année dernière il y a un événement qui nous a beaucoup frappé, c'est la création de milices identitaires anti-Roms, des milices censées qui ont été créées officiellement pour lutter contre la criminalité tzigane, sauf qu'en réalité sur le terrain ce qu'on voit C'est des violences précisément contre les Roms. À l'origine de ces milices, c'est un groupe qui s'appelle Notre Patrie. On aura peut-être l'occasion d'en parler. Mais d'abord, s'agissant de Viktor Orban, comment a-t-il réagi à tout cela? Est-ce qu'il essaye, est-ce qu'il a dénoncé d'une manière ou d'une autre tout cela, ou est-ce qu'au contraire, il entretient la confusion, voire même il instrumentalise tout cela pour précisément faire tenir le vote du Fidesz?
Oui, Orban n'est pas celui qui va tenir les propos les plus scandaleux, les plus anti-Roms, de la même façon que c'est pas lui qui va tenir des propos ouvertement antisémites. Il laisse les autres parler autour de lui, et puis après, c'est des mesures effectivement un peu plus subtiles. Là, dans le cas des Roms récemment, c'est le refus d'accorder des indemnités à des Roms qui ont été victimes de discrimination. C'est par petites...
C'est une décision de justice.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc c'est par petites touches le fait de s'attaquer, les milices qui s'attaquent aux Roms directement et de manière violente, ça a été aussi longtemps le fait du Jobbik ou des gens proches du Jobbik, justement de ce qui était réellement l'extrême droite hongroise. Et pendant assez longtemps, le Fidesz s'est quand même tenu un petit peu à l'écart de ça. Il faut dire aussi qu'au sein du Fidesz, il y a beaucoup de personnalités qui ont des origines roms. Et par ailleurs, la population rome, qui est assez importante en Hongrie, de mémoire, c'est à peu près 8% de la population. En tout cas, c'est une population qui est très mélangée, pour le coup. Et il se dit d'ailleurs que Viktor Orban lui-même a des origines dans sa famille liées à la communauté rome. Voilà, c'est de toute façon des populations, pour le coup, qui sont très mélangées. Mais les Roms ont été particulièrement touchés par la transition post-communiste et les dégâts économiques que cela a générés, puisque pour une grande partie de cette communauté, elle était employée dans les industries d'État de l'époque communiste. Et donc, c'est une population qui est aujourd'hui sinistrée d'un point de vue économique et qui n'a pas retrouvé sa place dans le marché du travail hongrois. La société hongroise est une société qui reste très inégalitaire et la population rome fait partie vraiment des classes défavorisées.
Paul Gradvol, peut-être un mot à ajouter sur la question des Roms, et puis ensuite je voudrais qu'on regarde au niveau des programmes, des projets de société, quelles ressemblances et quelles dissemblances on peut établir entre le Fidesz et puis les partis, disons plus à l'extrême droite, c'est-à-dire à la fois le Jobbik dont on vient de parler, mais aussi celui que j'évoquais tout à l'heure, qui s'appelle Notre Patrie, qui est très récent, qui a été créé en 2018 par un homme très controversé, et qui aujourd'hui est peut-être la force politique la plus à l'extrême droite, sachant que le Jobbik, on va le voir doucement, mais a aussi changé son positionnement sur l'échiquier politique. On commence avec les Roms ou...
On peut commencer avec les Roms parce que Amélie Poinceau a dit l'essentiel. Il faut juste rappeler que c'est une population qui est très très sous-qualifiée par rapport aux autres. Donc dans un marché du travail qui est devenu un peu du même type que le marché du travail français, on sait que les emplois sous-qualifiés sont bien sûr complètement déstabilisé par l'évolution actuelle de l'économie. Ça, c'est une première chose. Et puis, la ségrégation de l'habitat en Hongrie ne prend pas les mêmes formes qu'en France. Donc, il y a des communautés rurales roms qui sont vraiment l'équivalent de nos anciens villages harkis, qui n'étaient pas vraiment des villages, mais des espèces d'isolats où il n'y avait ni accès au transport, ni au travail et autres. Et ces gens-là sont extrêmement stigmatisés, de même que ce sont les derniers habitants des zones industrielles qui n'ont pas été revitalisés.
Il y a une ségrégation territoriale qui est très forte.
Qui est extrêmement forte. On a la même chose à l'est de la Slovaquie. Donc ça, c'était juste la seule précision que je voulais apporter. Avec une autre peut-être, le combat contre la possibilité que la justice condamne soit l'État, soit qui que ce soit pour discrimination, est un combat profondément anti-européen, mais qui est aussi à ce titre-là prôné par Viktor Orban. C'est-à-dire que quand il dit qu'un juge n'a pas le droit de dire qu'un tzigane va être compensé pour une mesure discriminatoire, c'est un message extrêmement clair. Et là où c'est très intéressant, et je voudrais, avant qu'on parle de l'extrême droite, parler d'un notre groupe, qui logiquement devrait être au cœur de notre discussion, puisqu'on parle de démocratie chrétienne et dont on n'a pas encore parlé, c'est le Parti démocrate chrétien.
Alors moi, je l'ai gardé pour après, mais je l'avais gardé pour après, moi.
Oui, mais on nous cache tout.
Non, commençons peut-être par ce que nous, on considère comme étant l'extrême droite, c'est-à-dire le Jobbik et puis cette force politique qu'on appelle notre patrie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer peut-être l'un ou l'autre, et puis peut-être vous aurez deux l'occasion.
Je peux commencer par le Jobbik.
Allez.
Parce que pour moi, c'est quelque chose de très intéressant vu du point de vue français. Le Jobbik est un exemple de parti d'extrême droite qui est devenu un parti de centre-droit en pratique. Chose que dans l'histoire politique française, on n'a jamais vue. Et c'est pour ça que c'est très difficile à comprendre. Mais aujourd'hui, le positionnement du Jobbik sur toute une série de questions, dont la xénophobie, dont l'antisémitisme, dont d'autres, est celui d'un parti de centre-droit. Il est plus modéré que la Fidesz. Et là, c'est très intéressant parce qu'ils sont restés un parti national, se revendiquant du nationalisme. Et ça va nous aider, je pense, à comprendre la Fidesz, de se rendre compte qu'un parti qui avait un ancrage extrêmement national, mais plutôt exclusiviste au sens d'exclusion des minorités, exclusion des étrangers, est devenu plus inclusif que le parti au pouvoir parce que sur la base de la politique d'exclusion, il a compris qu'il ne pourrait jamais doubler la Fidesz. Et ça, c'est quelque chose qui doit nous apprendre peut-être à réfléchir sur comment on peut transformer un parti politique dans des circonstances qui sont très particulières, ne l'oublions pas. L'évolution du Jobbik est aussi due au fait que, comme tous les autres partis hormis la Fidesz, il n'a pas accès aux médias. C'est-à-dire qu'il doit se concevoir comme un parti d'opposition, il n'a pas le choix, et d'opposition dans un système politique qui est déjà autoritariste, au sens où la diffusion de l'information est complètement verrouillée.
Amélie Poinceau, c'est vrai que c'est un tour de force, parce que quand on parlait du Jobbik il y a encore quelques années, c'était plus qu'un parti exclusif, c'était carrément un parti antisémite, avec des figures très très antisémites.
Voire néo-nazis.
Voire néo-nazis.
En fait, il faut vraiment arriver à analyser l'échiquier politique hongrois de manière complètement différente de nos référentiels à nous. On est complètement sur d'autres schémas. Et de la même façon, comme Paul Gradvol le disait, que le Jobbik est devenu un parti de centre-droit comme ça ne s'est jamais vu chez nous, le Fidesz, lui, s'est radicalisé dans l'exercice du pouvoir. Ouais. C'est-à-dire qu'on a une sorte de jeu de vase communicant. En tout cas, c'est deux partis qui, l'un et l'autre, bougent. Et pour ce qui est du Jobbik, aussi, petit retour en arrière. Le Jobbik, au départ, l'une de ses positions fondatrices, c'est une position irrédentiste, en fait. C'est aussi considérer la Hongrie d'avant le traité de Trianon, réunir tous les Hongrois d'outre-frontière, ce qui est un élément très fort pour la droite nationaliste hongroise. Et c'était ça, en fait, aussi, l'un des marqueurs du Jobbik. Et puis après, il y avait aussi...
Qui a été récupéré par Orban.
Et qui a été récupéré, évidemment, par Orban.
Et évidemment, par notre patrie, la force politique dont je parlais.
Tout à fait. Après, Orban le fait aussi de manière un peu plus subtile. Ouais. Et sinon, donc, pour revenir sur le Jobbik, il y a eu de fait une scission parce qu'en fait, comme ils ont échoué face aux progressions du Fidesz aux dernières élections législatives en 2018, le Jobbik du coup a eu une crise de leadership et une partie du Jobbik est réellement allée vers le centre et on arrive jusqu'aux élections municipales de l'automne dernier à Budapest, où en fait, ce qui paraît de même incongru pour nous, Français, en tout cas sur l'échiquier politique français, on a vu émerger une alliance entre des gens qui étaient à l'origine des gens d'extrême droite, mais aussi des écologistes, des libéraux, des progressistes et des sociodémocrates. Mmh. Et c'est tous ces partis ensemble qui ont réussi à se mettre d'accord sur une candidature commune pour faire tomber le Fidesz. Il y avait vraiment un ennemi commun.
Alors, on va y revenir, mais chaque chose en son temps, parce qu'effectivement, d'abord, vous avez raison, il faut bien comprendre la mécanique et le paysage politique hongrois avant d'en tirer des analyses. Paul Gradvol, venons-en à ce parti démocrate chrétien. Parce qu'il existe du côté de la Hongrie, le KDNP, qui a été créé au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, qui a été ensuite dissous, puis qui est réapparu en 1989. Depuis 15 ans, 20 ans, le Fidesz et le KDNP font toujours liste commune. Toujours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a aucune différence entre les deux, qu'ils ont les mêmes programmes, les mêmes idées, et qu'au fond, le Fidesz a absorbé la démocratie chrétienne hongroise?
Alors, en partie, oui. Mais ce qui est fascinant pour poursuivre ce qu'on disait, c'est la chose suivante. Au moment où le Fidesz, avant 2015, a changé ses politiques de façon plus ou moins souple, le Parti chrétien-démocrate, depuis 2010, s'est radicalisé à droite. Et c'est devenu, aujourd'hui, le parti qui réclame la sortie de la Hongrie, du Conseil de l'Europe et en fait la suppression de l'appartenance de la Hongrie au système qui fait qu'elle dépend de la Cour européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Au nom de la souveraineté nationale. Et le parti chrétien-démocrate hongrois aujourd'hui est un parti anti-pape François, hein, bien évidemment très heureux du fait que dans la nouvelle constitution, seul un homme puisse se marier avec une femme et inversement, et il n'y a pas d'autre mariage. Et donc, il est sur une ligne politique qui est grosso modo la ligne de l'Église orthodoxe russe aujourd'hui. Et c'est comme ça qu'on peut le comprendre. Et ça aussi, c'est une mutation. Parce qu'en 90 ou 95, le modèle du KDNP n'était pas exactement la direction orthodoxe de Moscou. Aujourd'hui, on en arrive là et c'est appuyé par Orban, et ça fait partie de ce mouvement de radicalisation de la Fidesz, puisqu'il y a une porosité certaine entre les deux, et qu'en fait la division de ces deux partis existe sur le papier, mais en fait, électoralement parlant, le KDNP sait que le jour où le Fidesz claque des doigts, il n'y a plus de KDNP.
Orban revendique ce lien idéologique avec l'orthodoxie russe ?
Alors oui.
Comment ?
Dans ses discours. Quand on prend le discours de février 2018 sur l'état de la nation hongroise, il le dit très clairement, et je ne me souviens plus s'il le reprend en février 2019, mais en 2018 c'est sûr, et ça continue, c'est-à-dire que très périodiquement, il insiste sur la solidarité chrétienne et sur la lutte pour les vraies valeurs, que sont les valeurs d'autorité, les valeurs familiales, etc. Donc c'est particulièrement ouvert.
Mais est-ce qu'il revendique, pardon, son attachement à l'orthodoxie russe, je le répète?
Il peut pas se revendiquer de l'orthodoxie russe.
Non, mais il peut y avoir, par exemple, des rencontres, lors de visites officielles, des discussions avec une certaine de figures qui nous permettraient de comprendre cet attachement. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas forcément dans un discours tout à fait, de façon ostentatoire.
Alors, le degré d'interrelation plus discrète m'échappe pour l'instant, parce que je pense que personne ne s'en vante, s'il existe. Donc je n'ai pas accès à ces informations, je chercherai pour la prochaine fois.
Je m'en souviendrai pour le cas de vol. Alors on va évoquer ce que vous évoquiez tout à l'heure, Amélie Poinceau, c'est-à-dire cette victoire, je ne sais pas dans quel sens il faut le dire, victoire ou défaite, ça dépend de quel côté on se situe, en tout cas défaite du côté d'Orban, puisque le candidat soutenu par le Fidesz a perdu la mairie de Budapest.
Une victoire historique a été remportée aujourd'hui, le 13 octobre à Budapest. Mais ce n'est pas seulement ma victoire ou même la victoire des partis de l'opposition. C'est la victoire des citoyens de Budapest qui se sont battus pour reprendre leur ville des mains du régime. Cette victoire signifie que nous faisons passer Budapest du 20e au 21e siècle. Ça veut dire que nous amenons, avec tous nos efforts, cette ville là où elle doit être. Nous la ramenons en Europe.
Voilà, c'était donc à l'automne dernier, Gergely Gorachon, je prononce correctement, c'est
oui.
Bon? Oui, ça a l'air d'être bien, qui remporte donc, qui est élu bourgmestre au premier tour avec presque 51% des voix face au maire soutenu par Orban qui lui a obtenu 44% des voix. Et vous le disiez tout à l'heure, Amélie Poinceau, il y a effectivement une coalition, en tout cas du côté du Jobbik. On n'a pas présenté de candidat dans l'espoir précisément de faire tomber le maire sortant. Alors comment on analyse tout ça ? On va commencer par vous, Amélie Poinceau. Est-ce que c'est là le signe que, ça y est, on a désormais en Hongrie ce fameux front anti-Orban dont on parle depuis si longtemps, il est bel et bien là ?
Il est là, mais avec toute la réserve que c'est un front local. On parle d'une ville qui est la capitale Et en Hongrie, peut-être encore plus qu'ailleurs, la capitale n'est pas du tout représentative du pays. La Hongrie est un pays, reste un pays rural ou de petite ville en tout cas. Et le vote est très différent sociologiquement entre la capitale et le reste du pays. Donc oui, il y a une réussite du front anti-Orban. Ça donne des espoirs pour tous les opposants à Orban et au Fidesz qui essayaient de construire depuis longtemps une opposition. Et de fait, il y a eu un vrai travail de stratégie politique et un vrai travail de campagne sur le terrain mené à Budapest et qui donc a porté ses fruits. Mais cela ne veut pas du tout dire qu'aux prochaines élections nationales, le Fidesz soit devancé. C'est pas du tout dit non plus que ces partis-là qui ont réussi à s'allier à Budapest arrivent à s'allier en province. Et puis cela suppose aussi de trouver une figure de leadership. Là, ça a fonctionné. On a un homme relativement jeune, la quarantaine, politologue. Ça a fonctionné, mais parce que la population de Budapest est aussi une population beaucoup plus cosmopolite, beaucoup plus jeune aussi, très différente. J'ajoute...
Clairement centré à gauche, hein. Il vient des écologistes, il plaît passer au Parti
Socialiste. Oui, mais encore une fois, ça a été une construction entre différents partis, donc son discours n'était pas tant marqué à gauche que cela.
Mais son parcours, oui.
Oui, oui, oui. Et juste pour terminer quand même sur ce point, parce que moi je trouve ça assez intéressant, c'est que ce qui s'est passé à Budapest, c'est également passé dans plusieurs pays d'Europe centrale, Slovaquie, République tchèque, Pologne, au même moment, il y a eu des élections locales, et on voit qu'à chaque fois, les grandes villes votent complètement différemment du reste du pays. Et on a là vraiment des votes sociologiquement très différents.
Alors, il y a deux questions, Paul Gradvol, auxquelles il va falloir que vous attaquiez maintenant. C'est un, est-ce que vous pensez que ce front anti-Orban qu'on a vu à Budapest peut se refaire pour les élections de 2023, et deux, qui pour justement incarner cette candidature d'opposition. Paul Gradvol.
Alors, je ne peux pas répondre à la deuxième question, je le dis tout de suite.
Alors, on va commencer, on va faire la première.
Et la question de la possibilité, qui est sans doute la plus importante, puisque c'est d'elle que dépendra le qui, c'est sans doute possible, mais il faut avoir conscience d'une chose. Au lendemain des élections, la Fidesz a décidé de changer toutes les lois relatives aux municipalités, et à les priver d'environ 50% de leur capacité financière, en réattribuant à l'État toute une série de domaines et d'autorisations. Alors, ça s'explique bien sûr de façon politique pour limiter non seulement le fait que Budapest puisse avoir un impact sur le reste du pays, mais il y a d'autres grandes villes qui ont basculé dans l'opposition. Donc, elle voulait faire un front, par exemple, pour envisager d'avoir une politique de médias commune. Pour éviter qu'elle puisse le faire, on coupe les fonds. Jusque-là, on est dans le standard, si ce n'est que jusqu'à présent, une telle violence législative n'avait pas été produite par quasiment personne, sauf peut-être à certains moments en Turquie. Bien. La deuxième logique des choses, c'est tout simplement que la Fidesz est tellement corrompue que il s'agit tout bêtement de pouvoir continuer à reverser des dividendes aux amis. Monsieur Orban vient d'être photographié très récemment et volontairement avec quelqu'un qui est accusé de corruption pour des millions et des millions et des millions d'euros. Qui est un homme politique de la Fidesz, qui est en justice aujourd'hui. Autrement dit, il y a une politique de soutien à la corruption chez les amis qui est ouverte. Et ça, c'est quelque chose qu'on reverra à l'international. Hein. C'est tout à fait fascinant et on n'en a pas conscience en France.
Alors, avant justement d'élargir et de regarder le front européen, il va bien falloir, hein, le temps avance, mais quand même un tout dernier mot, parce que depuis 2006, ces élections remportées par la Fidesz. 2010, le retour d'Orban. En tous les cas, le Fidesz vole de victoire en victoire. Qu'est-ce qui fait que là, on a ce coup d'arrêt? Parce que jusqu'ici, la politique sociale d'Orban est extrêmement généreuse et ça permettait à chaque fois de remporter que des victoires à toutes les élections, à peu près. Qu'est-ce qui fait là qu'il y a un moment de crise pour le Fidesz? Et à quand remonte-t-il?
Je dirais pas qu'il y a une politique sociale très généreuse, puisque je pense que la politique sociale du gouvernement Orban est assez inégalitaire. Mais en tout cas, le moment de crise, je pense qu'il arrive aussi parce que il y a eu un certain nombre d'attaques qui se sont renforcées ces dernières années vis-à-vis des ONG, vis-à-vis donc de la société libérale hongroise, vis-à-vis aussi de toute la partie pro-européenne du pays, parce qu'il y a eu donc ce discours très anti Bruxelles.
Mais ça, c'est très ancien, ça n'a jamais empêché le Fidesz de remporter des élections.
C'est devenu quand même plus fort depuis 2015. En fait, depuis 2015, il y a vraiment un renforcement, à la fois, comme on l'a dit en début d'émission, du discours anti-migrant, de l'opposition à Bruxelles, de l'opposition à tout ce qui viendrait de la Commission européenne. Et puis, il y a eu toute cette construction aussi autour de l'ennemi Soros, George Soros, donc ce milliardaire d'origine hongroise, qui est devenu le nouvel épouvantail d'Orban. Et donc toute la société progressiste, pro-européenne de Hongrie ne pouvait plus face à ce discours. Et donc là, il y a eu effectivement toute une réflexion politique pour tenter de faire tomber le Fidesz. Mais encore une fois, cette victoire à Budapest reste limitée à Budapest.
Paul Gradwal, comment vous analysez la chose, les raisons de ce front anti-Orban?
Alors, il y a deux choses. D'une part, il ne faut pas oublier les grandes manifestations de fin
2018-2019,
où là, ce qui se passait, c'est que le partage des dividendes de la croissance hongroise, du fait de nouvelles lois qui permettaient de payer des heures supplémentaires 3 ans plus tard, donc je vous laisse apprécier ça sur votre feuille de salaire, si l'entreprise ne disparaissait pas, s'il n'y a pas eu des changements. Donc, ce type de mesure qui tendait à esclavagiser la force de travail salariée et qui s'inspirait assez directement du modèle communiste chinois. Autrement dit, il faut de la souplesse de l'économie, mais seulement chez les salariés et sans trop de risques pour les gens qui sont riches.
Donc, ça avait provoqué des manifestations. Hein. Les gens sont descendus dans la rue.
Vraiment, pour la première fois en Hongrie de cette façon-là. Donc, il y a eu un précédent social à cette évolution politique et on a retrouvé un peu les mêmes cartes. C'est-à-dire que les villes de province qui ont basculé avaient déjà été en bonne partie mobilisées. Donc ça, c'est une première chose. Puis deuxième chose, je ne peux que soutenir camarade Amélie Poinceau, parce qu'il y a une radicalisation. Quand au début de cette année, les gens d'Orban font interdire Imre Kertész, prix Nobel de littérature, du programme des lectures obligatoires à l'école. Finalement, ils ont été forcés de revenir dessus parce que ça a été scandaleux. C'est une évolution qu'on n'aurait pas imaginée en 2010, 2011, jusqu'à 2015. C'était pas possible.
On aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure avec Catherine Aurel par téléphone. D'abord, direction du coup l'Europe. Les tensions entre le Fidesz et le Parti Populaire Européen perdurent depuis de longs mois. Revenons peut-être sur mars 2019 avec, à l'époque, la menace d'exclusion du Fidesz par le PPE.
Le PPE a décidé aujourd'hui de suspendre l'adhésion du Fidesz au sein de la famille du PPE. Concrètement, cela signifie que le Fidesz ne peut plus présenter de candidats à des postes au sein du parti. Il sera privé de ses droits de vote et il n'aura plus le droit de participer aux réunions du PPE. Cette décision a été prise sur le fondement de nos idées, de nos valeurs, celles du PPE.
Le fait que notre parti soit exclu fait du PPE une formation encore plus étroite et maintenant orientée à gauche. Message bien reçu. Cela arrive à la veille d'élections importantes. Nos adversaires politiques ne pouvaient pas espérer de plus beau cadeau que celui-là.
Bon, voilà, c'est vrai que c'était à la veille des élections européennes, donc le Parti Populaire Européen avait préféré suspendre et pas exclure. Mais d'ailleurs, on reste sur la même logique, puisque récemment, on a décidé de repousser cette question de la suspension sine die. Donc, jusqu'ici, on n'exclut pas, on suspend simplement le Fidesz du PPE. Pourquoi est-ce qu'on a peur, Amélie Poinceau, du côté du Parti Populaire Européen, d'exclure le Fidesz?
Eh bien, parce que cela constitue une force non négligeable du PPE, donc du Parti Populaire Européen. Ce sont de mémoire 13 eurodéputés, le Fidesz, sachant que le PPE a reculé aux dernières élections européennes. Et par ailleurs, le Fidesz est le parti au sein du PPE qui a recueilli le meilleur score aux élections européennes de l'année dernière avec plus de 50% des voix. Donc, si on fait un simple calcul politique, c'est difficile de se séparer de ce qui peut constituer quand même une des forces du Parti populaire européen. L'autre problème, c'est que le PPE est divisé sur la question du Fidesz, je veux dire d'un point de vue idéologique. Les Républicains français, par exemple, sont sur la ligne du Fidesz actuellement. Le Forza Italia en Italie est plutôt aussi du côté du Fidesz. Et la CDU-CSU allemande a eu diverses positions. Elle a pendant très longtemps complètement soutenu le Fidesz. Là, c'est en train de changer et notamment récemment, il y a eu une énième résolution qui a été votée par le Parlement européen visant justement les dérives de l'état de droit en Hongrie. Et là, on a pu constater qu'une grande majorité des députés allemands de la CDU-CSU ont voté contre le Fidesz d'Orban. Mais on sent bien que le PPE est très gêné et n'arrive pas à prendre position. Et en effet, cette suspension du Fidesz n'est qu'une suspension. Elle a été reconduite. Donc, formellement, le Fidesz continue de faire partie du PPE. C'est simplement que, en fait, le Fidesz ne peut pas occuper de poste dirigeant au sein du PPE. C'est simplement ça que cela veut dire, la suspension.
Paul Gradvol, l'objectif politique d'Orban au niveau européen, c'est finalement de faire passer ce parti politique européen d'un conservatisme, disons, modéré vers un conservatisme patriotique qui s'appuie sur les valeurs chrétiennes. Alors jusqu'ici, ça n'a pas marché, et notamment en raison effectivement d'une CDU allemande qui finalement gardait sa ligne. Sauf que les choses sont en train de changer. On en a un peu parlé la semaine dernière ici à ce micro, avec cette élection en Thuringe qui a provoqué la démission de la chef de file et d'office d'Angela Merkel. On aura un congrès le 25 avril prochain et a priori ce qui se profile c'est plutôt une droitisation effectivement de cette CDU allemande. Est-ce que finalement ce que n'arrivait pas à faire Orban jusqu'ici n'est pas sur le point d'advenir ?
C'est son pari et au-delà de la situation allemande que vous avez parfaitement résumée, on doit ajouter les nouvelles tractations avec M. Erdogan et la pression migratoire qui ont fait que, depuis quelques jours, les sites de la Fidesz ressortent tous les documents de 2015 disant « Nous avions raison, c'était nous qui étions le vrai bouclier de l'Europe, faisons ensemble des barrières, rajoutons des fils barbelés, si on veut des chiens loups. » Enfin bref, l'idée est que pour l'instant, la crise migratoire, qui n'est pas une crise migratoire, qui est une question de droits de l'homme et de respect de tous les textes signés par les États européens, c'est une crise de l'accueil, c'est pas une crise de migration. Eh bien, cette crise de l'accueil, aujourd'hui, est un point obscur de la politique européenne, puisque de Manuel Valls à l'extrême droite, pour simplifier, personne n'a le courage de dire, si on accueille demain 1 million de réfugiés en Europe, qu'est-ce que ça va changer ? Rien. Aujourd'hui, quand on prend la Pologne et la Hongrie, il y a du manque de main-d'œuvre. Donc, même d'un point de vue d'économie du travail, le risque est à peu près zéro. Tout simplement, on a affaire à une évolution de la politique et une absence de formation citoyenne des générations depuis 89. Plus personne ne s'occupe de rien puisque c'est la fin de la guerre froide, qui fait qu'aujourd'hui les opinions publiques sont manipulables. On a le modèle des États-Unis, on n'a pas besoin d'épiloguer. Ce n'est pas original. Et donc, nos hommes politiques étant d'un courage extrêmement limité, tout simplement, on n'emploie pas les mots corrects. On parle de crise des migrants. Déjà, vous commencez par ce qu'on dit, ce qui s'entend, et on en arrive aujourd'hui à une classe politique européenne qui, effectivement, il suffit de prendre l'exemple de Monsieur Bellamy, chef de file des LR en France aux élections européennes, qui, lui, est très, très compréhensif à l'égard de Monsieur Orban. Et Monsieur Orban est encore soutenu publiquement, intellectuellement cette fois-ci, par l'ensemble de la droite intellectuelle française qu'on entend régulièrement sur France Culture aussi. Et c'est très très intéressant parce que on reprend en France l'idée que M. Orban défendrait des valeurs chrétiennes, sous prétexte qu'il est pour la soumission de la femme et la famille traditionnelle. Donc il y a une réduction du christianisme ici qui est tout à fait frappante, mais pas très originale. Il surfe intelligemment, il est patient, il a les moyens d'être patient vu le contrôle qu'il a sur son pays. Oui. Peut-on être optimiste, c'est la question.
Orban réinvente une certaine démocratie chrétienne. Amélie Poinceau.
Oui, je dirais qu'il faut aussi prendre avec des pincettes ce concept de démocratie chrétienne, en tout cas dans la bouche de Viktor Orban, puisque c'est un concept qu'il emploie de façon assez récente. Lui-même n'est pas du tout religieux, n'est pas du tout croyant ni pratiquant. Il a épousé quelqu'un d'abord de manière laïque et ensuite ils se sont mariés à l'église 11 ans plus tard. Et donc ça montre aussi un certain rapport assez distant à la religion. Ses enfants ont été baptisés de manière différente, les uns, certains selon le culte protestant, d'autres selon le culte catholique.
C'est pas un bon chrétien, vous nous dites.
Voilà. Et la Hongrie, de manière générale, n'est pas un pays très très religieux. Donc là aussi, on voit une forme d'instrumentalisation. Après l'usage de ce concept de démocratie illibérale qui avait fait couler beaucoup d'encre, Viktor Orban a cherché un concept plus consensuel qui le rapproche aussi des droites traditionnelles ouest-européennes. Donc effectivement, le terme démocratie chrétienne à nous parle. Mais pour les Hongrois, c'est pas forcément un concept si opérant que cela.
Allez, très rapidement, Paul Gradvoile, et puis j'accueille Catherine
Le terme
Aurel,
qu'il a employé en mai 2018, quand il est revenu vers la démocratie chrétienne, c'est « regi vagashu », c'est-à-dire une démocratie chrétienne à l'ancienne, c'est-à-dire grosso modo Horthy, Salazar, Franco, toute cette génération-là.
On va parler de mémoire, puisque depuis son arrivée au pouvoir, Viktor Orban s'est lancé dans une vaste entreprise de manipulation mémorielle, on peut le dire, à la fois dans le paysage urbanistique en déplaçant, en retirant un certain nombre de statues, mais aussi dans l'enseignement, parce que là aussi, il opère un certain nombre de choses. On va le voir tout de suite avec Catherine Aurel. Bonjour Catherine Aurel.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin par téléphone. Vous êtes directrice de recherche au CNRS, une spécialiste de l'histoire contemporaine de l'Europe centrale. Et vous aviez signé notamment un ouvrage sur l'amiral Horthy, régent de Hongrie, dont on parlera peut-être dans notre échange. D'abord, Catherine Aurel, l'une des illustrations, je le disais, peut-être les plus visibles dans le paysage, dans cette bataille mémorielle menée par Orban, c'est celle qui concerne les monuments de la ville. Est-ce que vous pouvez nous aider un peu à comprendre justement tout cela et peut-être quelques exemples un peu notables, un peu saillants? Je sais qu'il y a par exemple une statue de l'ancien Premier ministre Imre Nagy, je ne sais pas si je prononce correctement, qui a été déplacée et qui a fait couler beaucoup d'encre. Est-ce que vous pouvez par exemple nous analyser ce fait, Catherine Aurel?
Oui, alors bonjour à vos intervenants. Nous nous connaissons très bien et Paul Gradvoile a lancé le mot de Horthy dans sa dernière phrase, donc c'était une transition toute trouvée. Alors oui, je vais faire rapidement et simple en prenant un seul exemple qui est la place du Parlement, qui est devenue l'inscription dans le paysage urbain de la politique mémorielle du régime. On pourrait même dire, d'une certaine manière, que la place du Parlement est devenue le terrain de jeu mémoriel de Viktor Orban, où, au départ, sous prétexte de travaux d'aménagement urbain, on a commencé à changer la lecture historique que l'on pouvait faire de la place du Parlement en faisant trois choses bien différentes. Mettant au centre de la place, en exaltant la mémoire de la révolution de 1956, d'une part, ensuite en notant la statue du premier président de la première république hongroise de 1918, le comte Károly, qui a été ôté, et à la place de qui est revenu, parce que ce qui est intéressant, c'est qu'il y a non seulement des statues qui sont... C'est pas des statues nouvelles, en fait. C'est très souvent des retours de statues anciennes qui sont refaites et qui sont toutes des rappels à l'entre-deux-guerres dont il a été question à l'instant. Donc, à la place de Károly, on a mis la statue d'Otissa qui avait été inaugurée en 1936, vous voyez la lecture. Et l'exemple le plus intéressant, c'est le monument à Kossuth. Alors Kossuth, c'est le grand leader de la révolution de 1848, mais plus particulièrement de la guerre d'indépendance de 1849. Il y avait un premier monument construit en 1927 qui représentait Kossuth était une personnalité incontournable. C'était évidemment pas du tout la personne que le régime Horthy voulait mettre en vigueur. Donc on avait fait un monument qui était déjà une falsification historique, je n'entre pas dans les détails, mais qui présentait la révolution de 1848 comme vaincue d'avance. Et les communistes ont remplacé ce monument par un monument alors tout à fait typique, Kossuth seul sur un socle, la main en avant et sur le bas du monument un ouvrier, une paysanne, un soldat, enfin bon, la lecture habituelle. Eh bien, le régime Orban a fait ôter ce monument et a remis l'ancien. Donc, sans corriger, bien entendu, les falsifications historiques qui se trouvent sur ce monument. Et bien, alors, dernier épisode, vous l'avez évoqué il y a un instant, donc, le monument qui consacrait la mémoire de d'Imre Nagy, le premier ministre qui a géré la révolution de 1956 et qui a été exécuté en 1958, ce monument vient d'être ôté il y a un an et demi, et on vient de le remplacer toujours de la même façon, par un ancien monument reconstruit qui exalte la mémoire des victimes de la terreur bolchévique de 1919.
Oui, donc on bannit la soviétisation et puis on glorifie ce nationalisme magyar. À quoi faut-il s'attendre, Catherine Aurel, pour les mois qui viennent? Parce que c'est pas tout à fait une année comme les autres. Hein. 2020, c'est le centenaire du traité du Trianon, 4 juin 1920, par lequel, évidemment, le pays avait été amputé des deux tiers de son territoire. Comment cet événement pourrait-il être utilisé par Orban, justement, pour revisiter cette histoire? On a un peu une idée de ce qu'on attend pour les commémorations, là, par exemple sur la place du Parlement que vous évoquiez?
Alors, pour le moment, il semblerait que il y ait alors déjà une fatigue de la population de ces thématiques. Il y a un grand projet scientifique qui s'appelle Trianon 100, mais qui est un projet purement académique mené par nos collègues que nous connaissons très bien, Paul Gradvol et moi, de l'Institut d'Histoire de l'Académie des Sciences, qui est sur le plan académique tout à fait irréprochable et qui travaille de façon académique, donc c'est peu accessible au grand public, même si les livres que ce projet produit garnissent les rayonnages des librairies en ce moment. Et on s'attendait effectivement, en gros, pour parler vulgairement, on s'attendait au pire pour le 4 juin 2020. Pour le moment, rien ne semble se dessiner de façon très très grandiloquente. On a l'impression, alors c'est en vous écoutant, je me suis demandé si on n'était pas là aussi finalement dans un changement d'orientation. Vous avez beaucoup parlé au début de l'émission, à la moitié à peu près, de la démocratie chrétienne et du nouveau discours chrétien christianisant de Orban. Alors, même si, effectivement, il y a un problème d'image du pape François qui ne plaît pas beaucoup au parti démocrate chrétien, il n'empêche que, là, au courant du mois de février, le président de la République, Janos Hadar, s'est rendu au Vatican et a invité le pape François à faire un déplacement en Hongrie et à tenir un congrès eucharistique en Hongrie au mois de septembre, qui répondrait, alors là, c'est peut-être là qu'on est en train de glisser, on va abandonner peut-être Trianon et le 4 juin 1920, et on va glisser sur la restauration de la Hongrie catholique en faisant référence au congrès eucharistique de 1938. Et puis ça permettrait aussi de refaire du Saint-Étienne et je me demande si on va pas assister là dans les mois qui viennent à un changement d'orientation mémorielle une fois de plus, hein, puisque on l'a bien vu et vos intervenants l'ont souligné, avec Orban on peut s'attendre à tout.
Alors attendez, parce que je voulais vous faire intervenir sur la question de l'enseignement, mais là je veux faire intervenir Paul Gradvol, parce que c'est intéressant ce que vous dites. Il y a peut-être là un changement, alors pas un virage à 180 degrés, mais on laisserait peut-être un petit peu de côté le nationalisme magyar pour remettre en avant l'identité chrétienne de la Hongrie, Paul Gradvol.
Comme Catherine Aurel l'a signalé, nous avons affaire à un personnage qui est capable d'à peu près tout. Et ça serait conforme à ce que nous disions avec Amélie Poinceau un peu plus tôt, à savoir que dans la mesure où l'objectif premier de Orban, c'est cette pénétration européenne et l'extension de son influence, il est tout à fait prêt à abandonner quelques moustaches de noble père de la nation arrivé vers 865, pour quelques soutanes, dans la mesure où ça lui rapporterait politiquement. Ça, c'est parfaitement clair.
Oui, non, mais c'est intéressant parce que ça veut dire que d'une certaine manière, il se concentre davantage sur les perspectives européennes en s'appuyant sur cette identité chrétienne de la Hongrie. Catherine Aurel, peut-être un tout dernier mot sur la question des programmes scolaires, parce qu'il en a parlé justement Viktor Orban dans son dernier discours à la Nation au début de l'année. Il y a un certain nombre d'auteurs qu'on va remettre au goût du jour, qui sont pas forcément des auteurs qui ont brillé par leur morale, disons-le comme ça. À quoi faut-il s'attendre là aussi? Et est-ce que les enseignants ont les moyens de s'opposer à cette bataille mémorielle qui se joue là?
Alors, vous avez évoqué tout à l'heure le revirement à propos de Kertész, hein, qu'on a finalement ramené dans le programme. Les enseignants ont très peu de marge de manœuvre parce que les programmes permettent théoriquement aux éditeurs, comme en France, hein, de proposer sur le marché des livres scolaires qui soient conformes au programme, mais présentés de manière autonome. C'est assez peu vrai, en fait, puisque le marché est ce qu'il est. Hein, la Hongrie est un petit pays qui, en plus, dénatalise. Donc, il y a de moins en moins d'enfants dans les écoles et les éditeurs ont les difficultés économiques que tous les éditeurs connaissent. Et du coup, la variété des manuels scolaires à la disposition des enseignants est extrêmement réduite. Et comme on rajoute par là-dessus, vous en avez parlé déjà, le matraquage médiatique que subit la population au travers de la télévision, et un petit peu moins l'écrit, mais surtout la télévision, on reste assez, quand même assez sceptique sur l'autonomie et la liberté des enseignants dans leur classe. Alors, on peut avoir le double discours qu'on a eu, bien entendu, pendant toute la période communiste, où là aussi on avait évidemment des manuels extrêmement dirigistes et des écoles qui étaient censées appliquer le programme. Et puis, à la maison, on enseignait autre chose. Alors, est-ce qu'on va revenir vers cet enseignement à deux niveaux? C'est certainement probable pour beaucoup de familles, oui.
Paul Gradvol, c'est un enjeu important pour l'opposition, la question mémorielle, ou finalement c'est très secondaire?
Ce n'est pas tant la question mémorielle que la question de l'enseignement et de la liberté de l'enseignement. Comme l'indiquait Christine Aurel aujourd'hui, le contrôle sur ce qui se passe dans la classe, le contrôle idéologique est de plus en plus fort. Et ça, c'est très très important parce que on est en train d'essayer d'embrigader les jeunes générations comme à l'ancienne. On revient vers des pratiques des années 60-70.
Merci beaucoup à nos invités. Catherine Aurel, qui était à l'instant avec nous par téléphone. Je rappellerai, Catherine Aurel, que vous aviez signé en 2014 chez Perrin, l'amiral Horthy, régent de Hongrie. On n'a pas eu l'occasion d'en parler, donc j'invite les auditeurs à se plonger dans votre ouvrage. Un grand merci à nos deux invités qui étaient avec nous ici. Amélie Poinceau, je rappelle que vous aviez écrit Dans la tête de Viktor Orban, qui est paru chez Actes Sud l'année dernière. Paul Gradvol, un grand merci également d'avoir été avec nous ce matin, nous avoir éclairé sur Orban, sur son ambition de réinventer cette démocratie chrétienne. La Hongrie, c'était l'un de nos laboratoires politiques auxquels on s'intéresse cette semaine. Demain, on changera de pays puisqu'on ira du côté de l'Autriche où là, on essaye de réinventer autre chose. C'est l'alliance entre les conservateurs et les verts. C'est peut-être l'avenir, c'est-à-dire le verdissement des conservateurs européens. Mais ça, ce sera pour demain. 11h presque 53 minutes. L'heure pour nous de retrouver Brice Couturier, le tour du monde des idées.
Le tour du monde des idées. Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Alors les bourses flanchent, le prix du pétrole s'effondre, le ralentissement de l'activité en Chine, puis en Europe, pourrait bien se traduire par une récession mondiale. Quelles sont les conséquences prévisibles de l'épidémie, Brice?
Quels que soient ses effets sanitaires, la crise aura des conséquences économiques et géostratégiques considérables. Il pourrait bien s'agir du signe noir qu'attendaient de nombreux prévisionnistes. Ils jugeaient l'euphorie des dernières années trompeuse et factice. Elle était assise sur des montagnes de dettes, encouragée par l'argent facile distribué par les banques centrales afin de soulager les budgets des États. Or, les bulles finissent toujours par éclater et les dettes par se payer, par exemple sous forme d'inflation. L'épidémie serait alors une sorte de prétexte au déclenchement d'une crise qui couvait depuis longtemps. Mais lorsqu'il s'agit de se prononcer sur la nature de ces fameuses conséquences, alors là, les avis divergent. L'épidémie va-t-elle accélérer certains processus en cours ou au contraire les interrompre, voire les inverser? La contagion, parce qu'elle menace toute l'humanité, va-t-elle rapprocher les peuples ou accentuer les fractures qu'on entrevoyait déjà entre les nations? Alors, les adversaires de la mondialisation pensent leur heure venue. Les nations post-industrielles, disent-ils, ont enfin pris la mesure de leur excessive dépendance envers les ateliers du Sud, de l'usine du monde chinoise en particulier. Il faut savoir que dans la seule province du Hubei, d'où est parti le coronavirus, des centaines de milliers de PME alimentant 56 000 compagnies multinationales ont cessé le travail durant plusieurs semaines. Alors forcément, l'interruption de leur production a entraîné des ruptures d'approvisionnement qui vont se provoquer nécessairement par des hausses de prix en Europe et en Amérique du Nord. La fragmentation de la chaîne de valeur est excessive et l'intégration régionale asiatique sous domination chinoise dangereuse. Aux États-Unis, Donald Trump, qui n'a cessé de chercher à découpler l'économie de son pays de celle de la Chine, voit sa crédibilité se fortifier.
Brice, l'essayiste néerlandais Yann Buruma met en garde. Les grandes catastrophes déclenchent des paniques morales.
Mais oui, parce qu'elles incitent les foules égarées à chercher des responsables à leur malheur, des boucs émissaires. Au XIVe siècle en Europe, on a massacré des juifs lors des épidémies de peste en les accusant d'empoisonner les puits. En 1923 au Japon, les incendies monstres provoqués par le tremblement de terre de Tokyo ont été suivis du massacre de 6000 Coréens. Et aux États-Unis, aujourd'hui, le sénateur républicain de l'Arkansas, Tom Cotton, a lancé la rumeur totalement infondée selon laquelle le Covid-19 serait un virus conçu dans des laboratoires chinois de guerre bactériologique. Mais ces théories conspirationnistes sont inflammables, selon Yann Buruma. Il ne faut que quelques individus dérangés, écrit-il, pour susciter la formation de foules violentes et irrationnelles. Or, justement, l'ancien Premier ministre travailliste australien Kevin Rudd prétend qu'il est intervenu récemment dans une rue de son pays pour défendre un vieux Chinois auquel s'en prenait un raciste. Alors plutôt que de mettre en cause l'autoritarisme du système politique chinois, comme le fait Trump, poursuit ce dirigeant australien, les dirigeants de tous les pays devraient se souvenir que la nécessaire solidarité humaine doit l'emporter sur toute stratégie politique. Car ce virus nous rappelle qu'aucun pays, pas même l'Australie, n'est une île dans le monde moderne. Comme le changement climatique, le virus ne connaît pas les frontières. Et l'économie mondiale ne surmontera cette crise que si la confiance revient. Or celle-ci ne peut être rétablie que par la collaboration entre les États travaillant de concert afin d'éviter le spectre d'une nouvelle récession mondiale. Notre organisation, l'Alliance EcoHealth, rappelle de leur côté Catherine Machalaba et William Karesh, a averti depuis des années des risques de contagion à l'homme que faisaient courir les marchés d'animaux vivants. Et nous savons depuis des années que certaines espèces de chauves-souris sont porteuses de virus dangereux. En Malaisie, une de ces espèces dites renard volant a transmis un virus redoutable pour l'homme aux porcs. Le gouvernement a donc organisé l'éloignement systématique des élevages porcins des régions où poussent les arbres fruitiers dont se nourrissent ces fameux renards volants. Et l'épidémie a pu être ainsi endiguée. Eh bien, des efforts de prévention doivent être organisés à l'échelle mondiale face au nouveau coronavirus. Lorsqu'un feu ravage une forêt, plaident ces deux dirigeants d'une ONG, c'est la solidarité entre habitants qui s'impose. La crise dite du coronavirus, prétexte ou pas à un choc économique mondial, aura des coûts énormes et il serait sage de les assumer au niveau mondial. Cela passe, écrivent-ils, par une coopération renforcée, un échange honnête de toutes les informations disponibles. Et les organismes internationaux, tels que l'OMS, doivent être renforcés. Pour sortir de la crise, la Banque mondiale et le FMI auront aussi un rôle à jouer, celui d'assureur en dernier ressort.
Merci beaucoup Brice Couturier pour cette chronique qu'on peut retrouver sur le site de France Culture, www.franceculture.fr. On vous retrouve demain dans un très court instant. C'est Olivia Gesbert et La Grande Table.